Bonsoir. Oui, c'est bien l'heure des mots d'azur, une émission consacrée à la poésie contemporaine, réalisée par Béatrice Maché. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Sauvage, l'une des trois personnes aux commandes de la maison d'édition, du même nom, Isabelle Sauvage. Ces éditions sont constituées d'un trio, et je vous parle depuis un hameau, du village de Plounéour-Méné, dans les Monts d'Arrée, en Finistère donc, pas loin de Morlaix. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, je dirais que les éditions Isabelle Sauvage sont une association Loi 1901 créée en 2002, au départ avec Alain Rebourg et vous, Isabelle. Et depuis cette date, l'année 2002, une centaine d'ouvrages ont été publiés, dont des livres d'artistes, des livres aux tonalités variées, rangés dans la catégorie poésie, dont certains ont été récompensés par des prix littéraires, avec au catalogue des poètes comme Jean-Pascal Dubost, Éric Audinet, Chloé Bressan, Anne Calas, Frédéric de Carvalho, Roland Cornthwaite, Carole Daricader, Ludovic de Groot, Yves Dimano, etc. Mathias Lair, Hélène Landscott, Camille Loivier, Sabine Maché, etc. Sans oublier Laura Houl, Anne Malaprade, Erwan Rouget, Laurine Rousselet, Christiane Verchambre, etc. C'est une belle variété de voix, une grande richesse. Alors, la question à partir de laquelle tout commence, c'est qu'est-ce qui vous a amené à fonder une maison d'édition ? Parce que c'est une décision qui implique un changement de vie complète, à mes yeux.
Les éditions, plus exactement, donc elles ont été montées, l'association a été montée en 2002, et c'était là uniquement avec des livres d'artistes. Et là, j'étais toute seule. Avec Alain, c'était plus tard en 2008, ou avec les éditions qu'on voit plus en librairie, les éditions avec tous les auteurs que tu as cités. Mais au départ, donc, c'était que des livres d'artistes. C'est pour ça que ça portait mon nom, parce que j'étais toute seule à ce moment-là. Et je ne m'en rendais pas du tout compte que j'étais en train de monter une maison d'édition, en fait. Le premier livre a été un livre de Sarah Clément, un typo. C'est au deuxième livre de Stéphane Kremer, qui était un ami. Lui, il m'a dit, mais moi, il est hors de question qu'il n'y ait pas de nom d'éditeur sur mon livre. Et donc, voilà, et ça s'est retrouvé, et les éditions Isabelle Sauvage. Mais voilà, moi, au départ, je découvrais la typo et la typo plomb. C'était sans réfléchir, en fait. C'est petit à petit que je me suis rendu compte que je disais que je voulais défendre un auteur, que je défendais une voix. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis aperçu que ça pouvait s'appeler de faire l'édition. Et puis après, avec Alain, en 2008, là, vraiment, il y a eu un pas de franchi.
Avant de continuer, et parce que j'ai oublié de le faire plus tôt, je dois vous rappeler que le 21 mars prochain, à 19h, au château de Moinsartou, Pascal Giovanetti viendra dire ses textes, ceci dans le cadre des soirées au château organisées par l'association Les Mots d'Azur. Et maintenant, reprenons avec mon invité. Alors, vous avez cité le nom de Sarah Clément, et donc c'est la troisième personne qui travaille avec vous désormais. Depuis 2016
2016, oui.
Donc c'est intéressant de savoir que vous avez glissé lentement et prise de conscience que c'était une maison d'édition. Quelle était votre formation au départ, au tout début? Vous faisiez déjà de la typographie ou pas?
Non, j'ai commencé la typo justement en 2001-2002. J'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai ensuite bifurqué vers l'édition, mais j'étais correctrice et éditrice extérieure. J'ai travaillé notamment au catalogue de la librairie du Jeu de Paume, enfin de la galerie du Jeu de Paume, où j'ai rencontré Sarah. Tout ça, c'était très bizarre, quoi.
Mais la vie parisienne, si j'ai bien compris, parce que maison du Jeu de Paume.
Oui, c'était à Paris, oui. On en a un tout petit studio où une prestipo n'avait certainement pas sa place. Et justement, j'ai déménagé quand après avoir fait cette formation en typo sur le tas, quoi, avec deux typographes imprimeurs. Et j'ai eu la chance qu'on me propose d'acheter une presse. Et voilà, ça ne rentrait pas dans mon studio, donc j'ai déménagé en lointaine banlieue, d'abord.
Et alors, qu'est-ce que des études d'histoire de l'art Comment ça vous forme? Comment ça vous déforme? Comment ça vous amène à la littérature?
J'avais un goût pour la littérature en dehors des études, parce que les études, effectivement, en plus, c'était très précis, c'était l'histoire de l'art médiéval. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté, c'est qu'au bout d'un moment, je voulais pas me rester dans ce côté très archiviste, ça me paraissait pas très vivant. Mais voilà, la littérature était présente depuis au moins le lycée, des rencontres comme, je sais pas, Duras, il y avait Boris Vian aussi à l'époque, Camus, Céline, c'était en moi quoi. Par rapport au livre d'artiste, il y avait le salon qui se passait en même temps que le salon du livre à Paris, c'était au Grand Palais, ça s'appelait Saga. Et il y avait un tas d'éditeurs qui faisaient des merveilles avec donc des artistes, la typo. Il y avait Jacques Brémond, il y avait Annick Vinet, il y avait des gens que maintenant je côtoie. Et il y avait Richard Meyer, les éditions Voix, qui m'avaient fasciné. Bon voilà, en fait, l'édition pour moi c'était ça. Mais là j'avais 20 ans et je continue mes études et je me rendais pas compte quoi.
Est-ce que vous avez jamais pensé à écrire vous-même? Vous avez aussi une pratique d'écriture?
Disons, là récemment, oui, il y a eu une pratique d'écriture plus construite. Ça a toujours été là, mais c'était complètement à côté. Puis d'autant plus que quand on est éditeur, on est passeur. Auparavant, je crois que c'était complètement mis de côté et sans aucun problème de ce point de vue-là. C'était s'occuper des livres des autres. Voilà.
Nous avons parlé donc de ce trio. Je voulais préciser qu'Alain Rebourg a soutenu une thèse de doctorat qui portait sur la poésie de René Char. Quand même une poésie exigeante, mais qui avait suscité un intérêt considérable chez le poète Paul Celan. Celui-ci avait dédié à René Char l'un de ses plus célèbres poèmes intitulé « Argumentum et Silencio », axé sur le sens du mot poétique en tant que résistance. Alors, puisque nous sommes une radio du Sud, je voudrais quand même rappeler, et beaucoup d'entre vous s'en souviennent, que René Char est l'auteur de plusieurs livres de poésie, dont « Le marteau sans maître », publié en 1934, dans lequel il rend compte de son expérience surréaliste, puis « Les feuillets d'hypnose », publié en 1946 chez Gallimard, une œuvre composée de réflexions brèves et fulgurantes, autant que fulminantes, inspirée de l'expérience de la résistance, vécue personnellement. René Char était alors connu dans le maquis sous le nom de Capitaine Alexandre, parenthèse fermée. Et si vous aviez une tentative de définition de la poésie, si vous essayiez de nous dire qu'est-ce que c'est, que diriez-vous, Isabelle? Ou pour le formuler autrement, qu'est-ce que la poésie pour vous, aussi bien en ce qui concerne la forme que l'expérience traversée à la lire ou à l'entendre?
Oula, je ne sais pas si je vais avoir les mots pour bien exprimer ça. Je vais citer Christiane Véchamp, dont on va publier un livre, et elle parle de langue handicapée, dans le sens où se joue en poésie quelque chose qui va passer par la forme, mais qui va... une manière de sortir des ornières, des assignations, la langue de bois, la langue de communication, c'est quelque chose qui va aller très très profond, qui vient de très loin pour l'auteur. Bon, ça peut être aussi une sensibilité, juste une peau ultra poreuse ou qui gratte, ça peut être ça aussi, ça peut être en surface. C'est quelque chose qui doit être absolument écrit, en l'occurrence. J'ai vraiment du mal entre le langage, langue... c'est la langue, je veux dire, c'est la langue.
La langue à la... Lacan? La langue de Lacan, ou bien... Justement, le terme de Christiane Véchamp, il est vraiment... Christiane Véchamp, est vraiment intéressant parce que langue handicapée, effectivement, plus on fouille et moins on trouve les mots appropriés. Et pourtant, avec cette langue pauvre, on arrive à trouver une façon de toucher et de dire quelque chose qui n'a encore jamais été dit.
Oui, C'est pas forcément une langue pauvre, mais oui, c'est cette tentative de toucher à quelque chose qui n'a encore jamais été dit, oui, je crois, même si qui n'a pas été dit déjà pour soi, mais évidemment pour les autres aussi, c'est forcément lié.
Quand je disais langue pauvre, je voulais dire que les mots ne sont que ce qu'ils sont dans leur acception, mais qu'on peut aussi jouer avec, les transformer et leur faire dire presque comme autre chose.
Bien sûr, c'est tout un travail qui se vit dans le corps. Ça ne vient pas comme ça tout seul. Il y a des fulgurances, bien entendu. Mais avant, il faut oui, accepter de creuser et élaguer beaucoup, je pense, et enlever tout ce qui est de trop. Et plus on travaille, plus on se rend compte qu'il y a du trop, je pense.
C'est-à-dire que le trop, c'est souvent une forme de bavardage, de choses convenues.
Oui, complètement. La poésie, justement, est pour moi cette langue, enfin ce travail sur la langue qui permet de toucher à quelque chose qui n'est pas convenu.
Alors, autre question maintenant, comment se constitue un catalogue ? Comment sélectionnez-vous les livres que vous éditez ? Est-ce que vous rencontrez d'abord les auteurs et vous les sollicitez ? Ou bien vous choisissez parmi les manuscrits qui vous sont envoyés ? Comment ça se passe ?
Il y a un petit peu de tout ça. On a publié pas mal de manuscrits reçus par la Poste, personnes qu'on connaissait absolument pas, de plus ou moins jeunes auteurs, autrices. Il y avait les rencontres, bien entendu. Il y a quelque chose comme un réseau qui se constitue, une toile d'auteurs qui sont liés, qu'on lit. Il y a vraiment un peu de tout ça. Au départ, ce sont des amis. Les quatre premiers livres, c'était des amis, donc en 2008. On pouvait pas les publier en typo, justement, puisque c'était des textes trop longs, etc. Mais on avait envie de les défendre. Donc on a publié ces quatre auteurs, un auteur et trois autrices. Donc Claire Le Cam, qui maintenant on est à 7 livres, je crois. On voulait défendre des voix nouvelles, inconnues, enfin vraiment, c'est un pari un peu, on avait un diffuseur en plus à ce moment-là, c'est un pari un peu risqué de publier vraiment quatre auteurs absolument inconnus. Et quant au catalogue, c'est pareil, il s'est constitué au fil des ans, sans qu'on en ait trop conscience au départ. En fait, c'est souvent en discutant avec les uns les autres, avec des lecteurs, des auteurs, qu'on se rendait compte que on allait quelque part, mais on savait pas qu'on y allait, quoi. Le catalogue, donc maintenant, il s'est enrichi, vraiment. On a, je sais plus combien vous disiez tout à l'heure, mais on approche 150 livres, ce qui est énorme. Il y a plusieurs choses. On suit les auteurs qu'on publie. On essaye vraiment de cheminer avec eux. Claire Le Cam, 7 livres, on va dire. Christiane Véchamp, ça doit être le 4e ou 5e aujourd'hui. Il y a Lou Raoul, 4 ou 5. Enfin voilà, on suit nos auteurs, on essaye d'avoir ce qu'on appelle des voix nouvelles. Enfin, on fait la place à des gens qui n'ont jamais publié. Et puis voilà, il y a eu après, dans les rencontres, dans les échanges, des auteurs qui ont déjà publié ailleurs, qui continuent de publier ailleurs, qui savent différencier leurs différents travaux, on va dire. Jean-Pascal, par exemple, Jean-Pascal Dubost, il va nous proposer certains types de manuscrits, mais pas d'autres. Pareil pour Christian Véchamp, pareil pour Camille Loivier. Voilà.
Oui, donc vous disiez que le catalogue donc, se fait petit à petit, mais que vous formiez quand même plus ou moins une forme de réseau. Donc, en fait, on reconnaît, quelque part, la famille des auteurs Isabelle Sauvage.
Oui, c'est une espèce de ligne, là, j'aime pas ce mot-là, mais qui s'est constituée, notamment sur la question de la littérature, enfin de la poésie de femmes. Notre catalogue est très très ouvert aux autrices. C'est quelque chose comme 70% de nos livres. Ça a beaucoup d'importance pour nous. C'est pareil, au départ, c'était pas une volonté, mais avec Alain, on s'est retrouvés vraiment là-dessus. Donc, une écriture du corps, une écriture incarnée, en tout cas, enfin, plus que du corps. Mais beaucoup du corps quand même, parce que justement, ce sont les femmes qui s'expriment et C'est pas pour rien qu'on publie des femmes, parce que elles bataillent vraiment, elles ont bataillent avec le corps, avec l'intime, avec les assignations, justement. Tout à l'heure, vous parliez de René Char. Il y a ce côté résistance, bien sûr. En poésie, c'est entre autres porté par les femmes.
Je suis assez d'accord avec vous. Bien souvent, on parlait de résistance, celles qui montent au front, ce sont les femmes. Vous avez donc un comité de lecture. Y a-t-il des conversations animées autour du choix d'un manuscrit à éditer ? Est-ce que vous êtes toujours d'accord ou bien vos points de vue divergent significativement et ça laisse donc des discussions animées, comme je disais ?
Oui, heureusement qu'il y en a. Le comité de lecture, il est justement là pour qu'il y ait une diversité. C'est cette ouverture qui compte pour nous, donc il y a quelquefois des discussions animées, mais très joyeusement. Et c'est extrêmement riche de pouvoir échanger sur les différents points de vue. Après, dans l'ensemble quand même, un manuscrit fait assez vite l'unanimité. C'est nous trois, avec Alain, Sarah et moi, qui de toute façon prenons la décision finale.
Alors, dans le petit milieu de la poésie francophone, vous êtes réputé non seulement pour la qualité des livres que vous éditez, mais aussi pour votre rigueur tout au long du parcours de la fabrication des livres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est naturel ? C'est quelque chose que vous avez réfléchi et comme une promesse que vous vous êtes faite ? D'où ça vient ?
Bien sûr, pour le coup, c'est une vraie volonté. Ça vient pour beaucoup du fait qu'on vient tous les trois, en fait, du livre, enfin, ou de la presse. Alain est graphiste. C'est lui qui a conçu l'identité visuelle, en fait, des éditions, en se servant de l'atelier, des traces d'encre qu'il y avait dans l'atelier pour faire. Enfin, c'était une manière de faire le pont avec les éditions typo. Si on regarde bien sur les couvertures, qu'elles soient noires ou rouges ou grises, ça a été décliné. On parle de bleu, moi-même, je ne sais plus, mais c'est du noir, mais ce n'est pas du bleu. Ce moirage subliminal, presque. Ce sont des traces, c'est des macules typo, c'est des lettres. Sarah et moi, on a travaillé, Sarah aussi a travaillé longtemps après le jeu de paume. Pareil, on est éditrice extérieure. On sait ce que c'est qu'une maquette, on sait utiliser les logiciels. On est donc correctrice avec Sarah. Voilà, on connaissait déjà la façon, les liens avec les imprimeurs. Enfin, on a ce métier-là dans les mains.
Et ce n'est pas du bricolage, il y a un bagage professionnel. Y a-t-il des livres qui vous ont vraiment marqué plus que d'autres ? Et j'imagine que oui, c'est inévitable. Que si vous prenez l'engagement d'éditer un livre, c'est parce que vous l'avez apprécié, aimé, et que vous voulez le défendre. Vous l'avez dit d'ailleurs. Et donc, si c'est possible, des titres ou des gens dont l'œuvre vous marque, et que vous avez envie de défendre et que vous défendez.
Ça, c'est absolument personnel, parce que moi, je vais répondre peut-être certains auteurs, Alain en parlerait d'autres et Sarah d'autres encore. Mais c'est très compliqué de répondre. J'ai vraiment du mal à citer quelqu'un.
Bah, bien sûr, en tant qu'éditrice, vous avez envie de dire tous, évidemment, puisque vous les avez édités, ces livres. Mais peut-être, alors, poser la question autrement, est-ce que vous avez découvert ou la sensation de découvrir une nouvelle voie et de dire « Ah, là, on passe pas à côté. »
Oui, ça régulièrement, en fait. Je vais reciter Claire Le Cam, je vais citer Anne Malaprade, Benoît Kolbok, Brigitte Mouchel. Bon, il y a eu aussi, mais là, c'est pas du tout une découverte de notre part, mais Franck-André Jamme. Juan Rouget, bon, voilà. Mais sinon, oui, des gens comme Anna Milani également.
Bah, arrêtons-nous un peu sur le cas Anna Milani. Parce que moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé son livre. Parlez-nous un peu d'elle.
Anna Milani, ça a été là le coup de cœur reçu par La Poste. On ne la connaissait pas du tout. C'est le coup de cœur absolu du comité de lecture. On s'est dit, mais c'est waouh. Et donc là, la question se posait pas beaucoup. En plus, c'était un très joli il se trouve que l'objet était parfait aussi, tout simple. Donc voilà, c'était une évidence qu'il fallait publier Anna Milani, oui, son incantation pour nous toutes. En plus, c'est un petit beau titre. Ça c'était une des dernières belles rencontres.
Et elle est relativement jeune.
Oui, absolument. Ouais. Mais là, c'était son premier livre publié, oui.
Je vous rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct et que nous sommes dans le petit hameau de Coatmalguen à Plouhenour-Méné, dans le Finistère, et sans surprise, il pleut. Pour les auditeurs qui ont du mal encore à se représenter ce que c'est que d'être éditeur, pouvez-vous nous dire en quoi consiste la vie d'une maison d'édition ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes présent dans les salons, festivals, est-ce que vous êtes diffusé dans les librairies, etc.
Oui, il y a un aspect commercial qui n'est pas le plus intéressant et sur lequel on n'est pas forcément très bon. Nous, on a fait le choix de ne pas être diffusé, de distribué. Ça, c'est une question un peu, peut-être un peu technique, un peu. C'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes, on contacte nous-mêmes les libraires pour être présents chez eux en dépôt. On appelle ça en dépôt. Comme ça, le libraire n'a pas d'argent à engager s'il vend les livres et on lui facture. On s'est dit que c'était une manière d'être davantage présent en librairie aussi. C'est une volonté que ce soit l'ensemble de notre catalogue qui puisse être présent en librairie et pas uniquement les nouveautés, que ce soit pas ce turnover qui devrait pas du tout marcher en poésie, mais même en littérature. C'est de la folie, ces livres qui restent un mois, 15 jours et puis qui disparaissent. Nous, on voulait que les auteurs qu'on a publiés il y a 15 ans, on puisse encore les trouver en librairie. Maintenant, on a quelqu'un qui travaille à mi-temps aussi avec nous pour cet aspect-là, qui appelle les librairies, qui fait le suivi et on voit vraiment la différence. On le faisait au départ tous les trois avec Alain et Sarah et là, on n'y arrivait plus du tout. Par contre, on continue à faire les salons autant que possible. Il n'y en a pas des masses non plus, ou alors très loin, notamment dans le sud. Et pour nous, on ne peut pas les faire tous. Ça, c'est les salons, c'est extrêmement important parce que c'est là aussi qu'on rencontre les gens, qu'on rencontre alors les auteurs, mais aussi les lecteurs, qu'on a des retours sur ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, la vie d'un éditeur, c'est beaucoup de cartons à soulever, à déplacer. C'est des piles de cartons qui s'entassent, le stock, il faut le mettre quelque part. C'est des piles de manuscrits à lire. Et puis tout le travail sur les livres, même pour qu'ils soient justement bien édités. C'est très vaste, hein, le travail d'un éditeur. Il y a la compta, tout ça.
Alors, je crois que dans votre catalogue, il y a très peu de poésie traduite. Alors là aussi, est-ce que c'est par choix ou bien simplement affaire de rencontres, d'opportunités?
C'est affaire de rencontres, c'est affaire économique aussi. On aurait aimé vraiment avoir plus de livres traduits, de langues traduites. Les projets qu'on a aboutis sont liés aux traducteurs eux-mêmes, ce sont les traducteurs et traductrices qui nous ont apporté le projet, Lily Longsoldier, Sabine Macher pour Chaya Stoika, qui là n'est pas de la poésie, mais un récit fabuleux d'une femme rome autrichienne. Là, c'est un des livres dont on est très fiers, mais Lily Longsoldier aussi, et puis le livre des morts de Rukeyser, ça c'était avec Séverine Weiss, Bosnie Elegie, d'Adrian Octemberg. C'est des livres extrêmement importants pour nous, mais ça coûte beaucoup plus cher. On tient évidemment à payer tout le monde, les traducteurs, et il y a les droits. Et puis nous, on n'a pas le temps en plus. Bon, on n'est pas très doué en langue non plus, mais on n'a pas le temps d'aller fouiller comme ça. Les livres qu'on a publiés, c'était vraiment les traducteurs qui nous amenaient ça sur un beau plateau.
On va passer maintenant peut-être un peu au livre précisément. Et j'aimerais parler, ou m'attarder un petit peu, sur une poétesse rennaise née en 1964 qui porte le nom de Lou Raoul. Vous pouvez d'ailleurs en savoir un peu plus sur Lou Raoul en allant visiter son blog qui s'appelle Friche et Apprenti. Lou Raoul a vécu dans un milieu bretonnant, elle a passé beaucoup de temps en Croatie, ce qui la place au carrefour de plusieurs langues, puisqu'on parlait de langues. À la question de Jean-Christophe Bellevaux, qui soulignait sa façon de bousculer la langue dans sa structure, sans excès mais suffisamment pour donner lieu à un trébuchement poétique, la question se formulait ainsi « Pouvez-vous nous dire quel rapport vous entretenez aux mots et à la langue, aux langues ?» Lou Raoul répondait « Si je savais répondre à votre question, il est probable que je n'écrirais pas. Et peut-être que j'aurais aussi arrêté de parler. » Le langage en tant que faculté humaine m'interpelle de longue date pour ce qui s'y joue de tentatives de communication entre les individus. Si je pouvais clairement expliquer mon rapport aux mots et à la langue, il me semble que je n'aurais aucun besoin de recourir à l'écriture comme espace d'expression de quelque chose qui me semble peu audible dans le quotidien. De recourir à un espace de création où il est, pour moi, question de transcender les événements ou les non-événements du quotidien. Je trouvais que cette réflexion de Lou Raoul était vraiment sentie en profondeur et que ça rend bien ce qu'on essayait de définir tout à l'heure. Vous pouvez nous dire un peu plus sur Lou Raoul ?
Alors en tout cas, je ne dirai pas plus que ce qu'elle vient de dire parce que c'est très beau et le trébuchement de la langue de Jean-Christophe Bellevaux est magnifique. Lou Raoul, on l'a rencontrée, elle nous avait aussi envoyé un manuscrit. Je pense qu'elle n'avait pas encore publié. Et ce qui nous a intéressé justement, c'est cette façon de déstructurer, comme dit Jean-Christophe Bellevaux, suffisamment pour nous emmener, pour nous déranger, quoi. On l'a vu faire du chemin aussi entre le premier et le dernier. Effectivement, passer de Bretagne en Croatie, on va dire, même si les deux ont toujours été là, je pense. Et que la Bretagne est toujours là. On l'a vu aussi se mettre à lire, vraiment, et même à chanter pendant ses lectures. Voilà, ça c'est pour nous, c'est quelque chose de magnifique, quand on sent qu'il se passe quelque chose dans un parcours, que c'est un parcours justement, que c'est pas l'histoire juste d'un livre qui est figé, c'est un bout de chemin ensemble.
Pour ma perception, moi, Lou Raoul, c'est comme une éclosion. C'est l'image que j'ai. Voilà.
Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aurais pu utiliser ce mot, oui, complètement.
Alors nous allons donc écouter Lou Raoul nous lire un extrait de son livre que vous, Isabelle, Sarah, Alain, avez publié en 2022, un livre intitulé « Second jardin ». Je précise que le récit, entre guillemets, se passe dans un train et que le bruit de fond que vous entendez est donc le bruit qu'il y a dans le wagon.
Vrat chem se, je reviens. Celle qui revient est partie peu à peu, et si ce n'est pas tout à fait, puisqu'aucun adieu n'a prononcé. Celle est partie et Béris. Il revient donc cette fois, ce jour. Si elle revient par le train, elle s'assoit près de la fenêtre. C'est un jour qui la suspend à la fin de décembre. Ce n'est pas rien. Derrière la vitre poussiéreuse, le soleil bat de ces jours-là, suspendu, n'est pas pendu. Une jeune femme, tout près, dans le même wagon, de l'autre côté du couloir central, coiffe ses longs cheveux qui ne sont pas blonds. Béris regarde un moment les mains de celle-ci s'activant, puis regarde dehors la ville s'estompant, la campagne qui succède, puis encore la jeune femme qui se tient à présent droite et très bien coiffée, assise sur la banquette. Ce que Béris pense, ses cheveux tressés tout autour de ce front, ce n'est pas si facile à décrire. Elle n'a pas d'image, n'a pas non plus de mots pour nommer cette façon de chevelure. Celle ne mange rien, aucune orange, aucun sandwich au pâté ou au fromage à sortir de son bagage.
Vous écoutiez Lou Raoul, autrice publiée par les éditions Isabelle Sauvage, lire un extrait de son recueil intitulé « Second jardin ». Isabelle, évoquons maintenant Christiane Véchambre. Parue évidemment aux éditions Isabelle Sauvage, et un livre moi m'avait vraiment marqué, c'était « Basse langue », qui cristallise une recherche opiniâtre et fait tenir ensemble des séquences en italique mettant à vif des fragments de la vie d'une femme. La mort du père, un avortement, la venue d'une ancienne amie de sa mère, et des lectures. Eri De Luca, Robert Walser, Emily Dickinson, et même Gilles Deleuze. Elle prolonge l'ouvrage avec l'évocation de Mrs. Muir, le personnage du film de Mankiewicz. C'est un vaste chemin, un panorama extraordinaire. J'aurais aimé être petite souris quand vous avez lu ce manuscrit ou quand vous avez découvert ce livre. Ça doit être vraiment merveilleux, quoi, cette expérience de découvrir ça et d'en faire l'édition. Vous voulez en parler un petit peu ?
Oui, effectivement, c'est un livre qui... personnellement compte énormément pour moi, le travail de Christiane compte énormément pour moi. Je l'ai rencontrée par ses livres, et le premier c'est un livre qui s'appelle « La griffe et les rubans » par le Préau des Collines, où déjà il y avait toute la thématique, enfin toutes les thématiques qu'on va retrouver dans Basse Langue, et qu'elle continue aujourd'hui encore de travailler. Basse Langue, c'est ce que j'ai tenté un petit peu de dire tout à l'heure quand je parlais de creuser, oui, aujourd'hui, elle parle de langue handicapée. On retrouve cette manière de se créer soi-même avec les livres, avec aussi bien donc Deleuze que et le cinéma. Mankiewicz, elle est très cinéphile, Christiane. Alors on pourrait dire qu'on est un peu loin de la poésie, mais c'est une collection chez nous un petit peu différente, qui est plus de l'ordre du récit. Christiane, elle essaye toujours d'aller au-delà, de ne pas s'arrêter à la réalité. Elle parle beaucoup du rêve aussi, de la puissance du rêve, ce qui se joue, tout ce qui peut se révéler donc à travers les rêves, mais à travers les mots, et leur faire la place, enfin, aux rêves et aux mots.
Mon sentiment, mon expérience de ça, c'est que j'ai l'impression qu'elle se construit comme un tremplin qui va... au-dessus d'un vide, ou au-dessus d'une rivière, au-dessus de quelque chose. Elle va jusqu'au bout du tremplin, pouf, elle prend son élan, et elle va ailleurs. Et puis elle reprend son élan pour etc., etc. Bon, c'est un petit peu comme ça que je la lis.
Oui, moi ça m'évoque une image qu'elle a reprise plusieurs fois dans ses livres, donc aussi de l'ordre du rêve, d'un cauchemar, mais qui... elle est sur une planche, elle marche sur une planche... et au bout de cette planche, il y a le vide. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on retourne? Est-ce qu'on saute? Effectivement.
Un autre auteur aussi important, non seulement pour les éditions Isabelle Sauvage, mais en tant que poète et en tant que critique, c'est Jean-Pascal Dubost. Donc un poète français né en 1963, né à Caen. Et il vit en Ille-et-Vilaine, dans la forêt de Brocéliande. Il est aussi connu pour ses articles, je le disais, ses critiques littéraires respectées, publiées dans différentes revues. Il est l'un des collaborateurs du site de poésie Poésie Bao. Il a participé à l'activité de la Maison de Poésie de Nantes, de 2001 à 2011 exactement. Il a été le président de cette même Maison de Poésie de Nantes de 2007 à 2011. Il est le cofondateur, à partir de 2012, de l'association Dixit Poétique, et il organise le festival des poésies contemporaines Édir et Wissens. Donc, des actions poétiques menées sur le territoire de Brocéliande. Et puis, il collabore volontiers avec des musiciens. Et j'ai retenu, moi, les noms de Olivier Mélano et Thomas Bellhomme. Jean-Pascal Dubos, c'était presque votre voisin, Isabelle.
Oh, la Bretagne est plus grande que ça. Il nous accompagne surtout depuis 2010-2012. Il fait partie du comité de lecture. C'est quelqu'un qui compte énormément pour nous. Jean-Pascal, lui, va aussi beaucoup parler du travail que c'est que d'être poète. Il répète que c'est pas une muse, qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça qui va dicter des paroles. C'est vraiment un travail. Il est extrêmement rigoureux. C'est quelqu'un qui va se lever très tôt, qui enfin, voilà, c'est un bosseur vraiment, d'une grande érudition, qui a fait des études d'ancien français, donc il maîtrise aussi cette autre langue, on va dire, avec laquelle il joue beaucoup, qui touche aussi la légende d'Arthur. S'il vit à Brocéliande, c'est pas pour rien. Il mêle aussi sa vie et son travail. Tout à l'heure, je crois que je le citais pour dire que il n'y a pas que nous qui le publions. Mais voilà, Jean-Pascal a vraiment le sens, l'intelligence vraiment du catalogue d'une maison et de comment il peut s'y inscrire. On ne publie pas tout ce qu'il fait. Il se range maintenant dans les auteurs publiés par les éditions Isabelle Sauvage et ça, c'est un beau cadeau pour nous.
Donc de lui, vous avez publié « Et le son et couture » en 2012, « Fantasquerie » en 2016 et plus près de nous en 2022, « La pandémiade ». Alors la pandémiade, vous pouvez parler un petit peu de ce livre ?
Alors la pandémiade, on a pu hésiter par rapport au sujet. Régnier, c'est ce qui est arrivé, il y a eu tellement de livres publié ce confinement. Bon, cette période était tellement bizarre et les journaux, les récits du confinement ne voulaient pas ça. Après la pandémie, un tel livre, c'est certain, un journal du confinement et de cette pandémie. Mais voilà, c'est Jean-Pascal Dubos et c'est dans sa langue, avec son humour, qui peut être très grinçant. Ce livre, d'ailleurs, on peut dire qu'il ne marche pas trop bien. Je crois que c'est un livre important parce que il n'en fait pas un récit personnel. Il a vraiment pris au jour le jour tout ce qui s'est passé, mais on a déjà oublié tout ce qui s'est passé. Et lui le reprend, donne l'absurdité de cette situation. Donc voilà, c'est très ironique, c'est très grinçant, mais c'est très juste également.
Oui, il y a un petit côté pamphlet par moment, hein. Mais peut-être même tout au long du livre. Alors, La pandémiade, c'est un livre qui propose trois ensembles. Donc, première partie, chronique du confinement, du 16 mars au 11 mai 2020, congé de liberté, du 12 juillet au 9 août 2021, et sermon joyeux de la crise sanitaire, du 23 août au 13 octobre 2021. Le titre, dit l'auteur, pastiche, la Franciade de Ronsard. Donc, Franciade, pandémiade. Mais moi, ce qui m'amuse dans ce Jérémiade ou Franciade, ou débandade, ou mascarade, voilà, ce sont tous ces mots au terme et au suffixe « ad », parce que Jean-Pascal Dubos n'est certainement pas dupe. La pandémiade n'est et ne sera pas le seul livre écrit qui reviendra sur ces deux années de crise. Et comme il le dit lui-même, « so many » poèmes urgents et autres journaux de confinement. Si son écriture ne devait au départ qu'accompagner un temps de retranchement vécu comme heureux, il est vite rattrapé par l'exquise joie d'écrire en temps de crise. Et là, il écrit « ici » I, C, Y, si s'il n'y a ne rit ne jeu, même si s'emballe le funeste compteur, journalier des chiffres, parce que contre ça, plutôt qu'esclave, vrai être en joie. Et donc, il y a un petit côté aussi épopée, tagada, tagada. Enfin bon, il faut le lire parce que c'est trop drôle. Et puis bon, vrai être en joie, on ne peut pas soupçonner Jean-Pascal Dubast de ne pas connaître, pas son Deleuze par cœur, mais quand même, Deleuze, donc ce travail sur la joie qui est une forme de résistance au pouvoir. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très fort, qui est pour moi un des messages importants. Parce que le confinement raconté, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas un travail de esprit critique derrière et soulever tout l'absurde qu'il y a derrière aussi, ce serait un livre vain. Il y a le côté aussi chanson de geste derrière, qui est très entraînante. Donc, encore une fois, une petite citation. « Ce saint sanitaire, pas Saint-Nazaire, ce saint sanitaire dont je vais dire quoi, Q-U-O-Y, savoir sa vie, sa légende et histoire. » C'est sous trois formes médiévales, donc, qu'il décrit et décrypte la crise, ses drames et son absurdité. Il y a aussi l'improvidence de cet état nouvellement providence. Il souligne l'œuvre de division entre les différents membres de cette nation française. Il y a les vaccinés, les gens du bien, il y a les non-vax, qui sont les gens du mal, et il y a la lutte de la lumière contre les ténèbres. Il ne dit pas un état autoritaire, il condense les deux mots et ça devient l'autoritaire qui se resserre. Et on en est là où on en est, et l'autoritaire s'est vraiment resserré. Donc le premier ensemble est découpé en 4 strophes de 8 vers, chacune pour chaque jour, le second en strophes de 12 vers, et le troisième déroule un flux continu composé en octosyllabes. Donc il y a aussi une formalisation, quelque chose de très serré. Je pense que c'est la manière aussi nécessaire pour Jean-Pascal Dubost pour se contenir, parce que je crois que sinon il déborderait tellement.
Oui, je crois qu'il a besoin de cette construction, oui, qui est joyeuse. C'est un dur labeur, il dirait, mais fait dans la joie, oui. Ce qu'il revendique, et c'est ce qui est très beau dans ce livre, oui.
On va entendre, écouter Jean-Pascal Dubost d'abord se présenter. Il était enregistré en 2021 à la Maison de la Poésie de Normandie, un lieu encore appelé Factory. Et il est devant la caméra, il se présente, il parle de lui, il dit qui il est et comment il travaille. Jean-Pascal Dubost.
Je publie depuis un certain nombre d'années, j'ai publié une vingtaine de livres, essentiellement de la poésie, chez des éditeurs comme Isabelle Sauvage et Tarabuste, qui sont mes deux principaux éditeurs, et puis aussi des livres de prose. Donc j'ai publié des pages du carnet, j'ai publié un conte érotico-poétique, un journal de travail, un pamphlet contre la chasse, chez différents éditeurs comme l'Atelier Contemporain, le Réal Gare, les éditions Rehaut. Je dirais que le principal thème, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas mon sujet de préoccupation en écriture, c'est la langue elle-même. Le plaisir de la langue, le plaisir à la langue, le plaisir de sortir la langue de ses carcans. J'ai un rapport assez physique, assez charnel et gourmand avec la langue, peut-être même, je dirais, sensuel. J'aime la langue et en même temps je la déteste, pour ce qu'elle nous oblige à faire parfois. Donc en fait, j'ai un rapport, je dirais, impertinent avec la langue et un rapport insolent avec la langue, mais en même temps un rapport assez passionnel. Je dirais qu'aujourd'hui, la poésie, je la classerais dans des marges, dans des frontières, entre plusieurs genres. Et je la vois plutôt comme quelque chose d'indéfinissable et d'inclassable. Tout ce qui est texte un peu inclassable, on ne sait pas les fourrer, donc on les fourre en poésie. C'est ce qui m'intéresse, c'est comme ça que je définirais la poésie. Je dirais que la poésie, parmi ces textes inclassables, c'est ce qui va au contraire du sens du poil, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste à la langue normative, c'est ce qui résiste à la nouvelle langue, c'est ce qui résiste au pouvoir en place, à la langue du pouvoir, à la langue de la publicité, à la langue des médias. Après, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec ce qu'on vient de vivre, les confinements, etc., la poésie a eu une sorte de regain. On a vu beaucoup de poèmes passer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont mis à écrire de la poésie. je pense, via un malentendu, comme si la poésie s'était faite pour exprimer ses sentiments et ses émotions, alors que c'est pas forcément que ça. Mais voilà, la poésie tout d'un coup est devenue importante. Moi, je dirais, si elle est importante, c'est pas forcément en France. C'est dans des pays où, par exemple, certains poètes sont condamnés à mort parce qu'ils ont écrit des poèmes athéistes et blasphématoires, là, elle est importante. En fait, je suis dans un spectre très large. Je peux aimer des auteurs difficiles, voire illisibles, et des auteurs d'une très grande simplicité. Donc, d'un côté du spectre, je suis un grand lecteur de Christian Prigent, de Jude Stéphan, de Denis Roche, de poètes à la langue dite illisible, difficile, absconse. Et de l'autre côté du spectre, j'aime beaucoup des poètes de la simplicité comme Valérie Rousseau, comme Antoine Aimaz, Daniel Bigat, bien sûr, qui reste pour moi un de mes maîtres. Des poètes comme Eric Sotou, qui est d'une extrême limpidité. Et puis, bien sûr, j'oublierai pas la poésie étrangère, que je lis beaucoup. Des poètes comme la poète autrichienne Frederike Mehrhofer, un poète brésilien qui s'appelle Alvaro de Campos, la poésie de Kerouac, bien sûr, que je lis toujours et relis. Également un poète anglais qui s'appelle Ted Hughes, et puis un poète coréen qui s'appelle Ko Hoon. Voilà un petit peu mon monde, et là j'ai été très, très bref.
Vous écoutiez Jean-Pascal Dubost, poète breton installé en Bretagne, édité et membre même du comité de lecture des éditions Isabelle Sauvage, puisque je suis en compagnie d'Isabelle Sauvage elle-même. Vous avez entendu Jean-Pascal Dubost se présenter, dire un petit peu qui il était. Et nous allons maintenant écouter un extrait de Fantasquerie, un livre paru aux éditions Isabelle Sauvage en 2016, enregistré cette fois à la Maison de la Poésie de Rennes en septembre 2021.
C'est une autre paire de manches qui oblige à mettre la main à la pâte et en quatre, et il n'arrive pas tous les quatre matins, ni non plus la semaine des quatre jeudis, pas plus comme un P sur une toile cirée, car le plaisir d'un travail en guérit la peine, oblige aussi à se mettre martel en tête, ainsi qu'à avoir du chien, car ce n'est pas une sinécure, et paresse ne fait on que prouesse, et on n'a rien sans rien qui ne s'exécute pas en deux coups de cuillère à peau, rien qui ne tombe par l'opération du Saint-Esprit, et dans le plus simple appareil, pour ce qu'il y a du pain sur la planche, et ce, avec le dos de la cuillère sans mettre la charrue avant les bœufs, ni en cultivant son poil dans la main, de plus, ça peut être la croix et la bannière, bien que ça soit plus fort que jouer au bouchon, et que pour un plaisir, mille douleurs. De quoi il ne se faut croire sorti de la cuisse de Jupiter, ni être fier Artaban, ou s'estimer le premier moutardier du pape, auquel cas on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, bien qu'il en ait pour se boucher du pied. Car, donc, et ce n'est pas mener les poules pisser, il faut veiller au grain, parfois couper les cheveux en quatre ou parler français comme une vache espagnole, sans non plus yoyoter de la mansarde, et ne pas être dans la lune, ni à l'ouest, non plus avoir froid aux yeux sans nécessairement se porter comme un charme, sans en chier une pendule non plus, qui ne sonnera pas de midi à 14h, étant entendu qu'on ne fabrique pas des châteaux en Espagne, quoique le jeu en vaille la chandelle, au-delà de toutes nos espérances, sans veut bien se donner la peine, sans faire la fine bouche et ne pas rester les bras ballants, ni dans les poches, ou avoir les côtes en long. En effet, il ne faut pas se bercer d'illusions, ni être tombé de la dernière pluie, tel quid avoir des œufs au feu qu'il n'y a que des escailles, attendu que ce n'est pas cousu de fil blanc, ça ne tombe pas sous le sens, il faut être au taquet, au nez et à la barbe peut-être, parfois, du premier chien coiffé, se faire du mouron, et malgré cela, il faut mettre les bouchées doubles, puisque, de fil en aiguille, et en vertu d'une répartition au marle franc, on entrera dans le vif d'un sujet pas piqué des hannetons, et obtiendra une bonne pioche hors pair, bien qu'elle ne mette nullement de beurre dans les épinards, et mène, de temps à autre, à danser devant le buffet. Or, tout ça ne coule pas de source.
Vous avez entendu Jean-Pascal Dubost nous lire un extrait de son livre « Fantasquerie », livre paru aux éditions Isabelle Sauvage en 2016. Isabelle, on s'achemine l'air de rien vers la fin de cette émission. Et j'aimerais que nous parlions maintenant des livres à venir, des projets pour début 2025.
Alors, Christiane Véchambre, Le Retour. Cette fois-ci, elle est publiée dans la collection Noir, Présent Imparfait. C'est plus une écriture en vers libre, mais qui mélange aussi la prose. Évidemment, un très beau livre, qui s'appelle Là où je n'écris pas. C'est là qu'elle parle de la langue handicapée. C'est un très beau livre sur le temps. Et en même temps, paraît troisième livre de Marie-Yvonne Coat, qui n'a publié que chez nous. Nous publions un livre qui s'appelle « Nous les Persans ». Quel chemin elle fait depuis son premier livre. « Nous les Persans » est un projet... il est très beau sur la forme, très pensé aussi, avec les pages en regard, double page « Nous les Persans », « Nous les autres ». Et ça recoupe le monde tel qu'il est, comment nous autres, comment on peut essayer de prendre le temps de réfléchir déjà, de ne pas se laisser envahir et ensabler.
Nous les Persans, on peut l'entendre P-E-R-S-A-N, avec un S puisqu'ils sont plusieurs, Persans, Iran, voilà, une civilisation. Ou alors, Persans, P-E-R, C-C-D-I-A-N-T-S, qui perse. Et puis, ça fait certainement référence à... Oh, comment peut-on être persan, j'imagine.
Oui, Marie-Yvonne, c'était Angers, je crois. Elle a eu une première fois ce texte qui était encore inédit. Effectivement, alors, donc, c'est persan, C-C-D-I-A-N-T-S. Et l'auditoire avait pensé que c'était les persans, voilà. Et elle n'avait pas du tout prévu ça. Enfin, pour elle, c'était évident que les persans s'étaient percés. Mais ça fait partie, oui, de la beauté du texte. Mais avec l'ambiguïté, qui sont les persans, qui sont nous autres. Et ce nous autres, bah, il englobe les persans également. Et c'est pas noir et blanc.
Merci. D'autres livres encore à venir ou...
Enfin, au cours de l'année, il y a Camille Loivier, Frédéric de Carvalho, Claire Le Cam. On retrouve un peu nos auteurs fétiches. Il y a également Noël Matisse pour un récit qui s'appelle « Je parle pas la langue ». Donc voilà, il y a quand même un petit fil.
Alors je voudrais quand même dire deux petits mots à propos de Camille Loivier, sans qui on ne connaîtrait pas la poésie taïwanaise, une grande traductrice qui vit en région parisienne, peut-être même à Paris même, Camille. Un travail de traductrice d'un côté et de poète de l'autre, ce qui fait que c'est toujours la même personne, évidemment, mais deux aspects en tout cas de la pratique d'écriture. Et c'est assez fascinant.
Oui, encore une qui interroge. Oui, la langue, ce qu'elle produit, ce qu'elle permet, et ce qu'elle creuse, on va dire encore.
Oui, à partir du moment où on ose s'en approprier et en faire sa langue. Sinon, oui, on dit « passe-moi le sel, passe-moi le pain », quoi, voilà. Isabelle, un grand, grand merci, d'abord pour m'avoir accueillie et reçue ici, à Plounéour-Ménée. Merci pour toutes les précisions, explications que vous avez pu donner aux auditeurs. Je suis sûre qu'ils auront appris quelque chose du métier d'éditeur, ce qui n'est pas forcément clair au départ. C'était Les Mots d'Azur ou La Poésie en direct, une émission réalisée par Béatrice Maché. Je vous retrouve, moi, le mois prochain, avec un nouvel invité, évidemment. On continuera notre petite exploration du paysage de la poésie francophone. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir et merci Béatrice pour ce moment de partage et d'échange.